Bien, avant de commencer, donc, j'avais toujours quelques noms qui vont intervenir pendant la séance. La séance est consacrée à une mise en tension entre un sociologue Pierre Bourdieu et un philosophe Jacques Mansur, donc Pierre Bourdieu 1932-2002, Jacques Mansur. On verra avec Bourdieu à un moment donné, dans la deuxième partie, une notion, je dirais, du grec, Alodosia, l'usine du Benjamin, 1889-1951, Henri Attant, qui est un biologiste, toujours vivant, Charlotte Nordman, qui est auteur, toujours vivant, d'un livre sur Bourdieu et Rancière, Claude Grignon et Jean-Claude Passon, deux sociologues, aussi vivants, Nicolas Benson, un philosophe vivant, Luc Bodansky, un sociologue vivant, John Austin, un philosophe du langage américain, 1900-1900, la notion de performatif, et donc un classique de la philosophie, paru Spinoza, 1632-1777. Les papiers qui nous ont été distribués avec la vidéo et la chanson qu'on passera dans un deuxième temps, donc il y a parfois des petites copies, notamment il y a une copie sur la date de la mort de Rosa Luxembourg qui est 1919. Bien, donc je vais présenter aujourd'hui quelque chose de un peu plus nouveau que ce que j'ai présenté la dernière fois, en fait, plus nouveau, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas fait pour l'instant. C'est cette mise en tension de deux auteurs que je connais bien mais que j'ai peu mis en rapport jusqu'à présent, qui sont le sociologue Pierre Bourdieu et le philosophe Jacques Rancière. Donc c'est le deuxième temps de la série de cours sur repenser la contestation radicale entre sociologie et philosophie politique. Donc on a bien un sociologue et quelqu'un qui fait de la philosophie politique. La dernière fois c'était l'individualité. Aujourd'hui, donc, on va toujours travailler sur les rapports entre sociologie et philosophie politique, mais en se centrant sur les rapports entre les différences, les oppositions entre deux auteurs qui me semblent importants pour formuler les problèmes aujourd'hui. On continuera donc à travailler sur deux registres de connaissances autonome, c'est pas exactement la même chose, la sociologie, la philosophie. D'abord une sociologie critique, celle de Pierre Bourdieu, donc sociologie critique qui pointe les dimensions négatives d'un ordre social, les inégalités, les dominations. Et puis chez Rancière, une philosophie de l'émancipation qui peut nous aider à expliciter les référents positifs de la critique du négatif. Si la sociologie critique donc pointe le négatif, la philosophie parfois et la philosophie de l'émancipation peut aider à expliciter les référents positifs de la critique. C'est l'émancipation entendue dans le siège des Lumières du XVIIIe siècle comme une sortie de l'état de tutelle, comme dit Kant, une sortie des dominations, on dirait aujourd'hui, dans la construction d'une autonomie individuelle et collective. La difficulté particulière de la mise en rapport de cette sociologie critique et cette philosophie de l'émancipation, c'est que elle apparaît en tension chez les deux auteurs, surtout du côté de Rancière qui a beaucoup critiqué Bourdieu, et c'est ce qui a conduit Rancière à choisir une philosophie de l'émancipation contre une sociologie critique de la domination. Alors, comment on peut être amené à choisir l'émancipation contre la critique de la domination? On verra que ça, c'est justement, ça va être intéressant à travailler. Alors, cette difficulté va conduire à emprunter une autre voie de connaissance qu'on appelle épistémologique que celle couramment utilisée quand on rapproche deux auteurs qui sont distincts. Quand on rapproche deux auteurs distincts, on va souvent chercher à les mettre en cohérence pour créer quelque chose de plus cohérent avec les deux. On va articuler certains de leurs concepts ou de la totalité. On va essayer de dépasser dans un style hegélien leurs contradictions dans une entité qui est plus globale, plus cohérente. Je vais pas m'inspirer de cette vision qui vise à harmoniser, articuler nécessairement, à dépasser les contradictions entre deux auteurs. Je m'inspire plutôt des pistes qui ont été fournies par un penseur et un militant socialiste libertaire classique, Pierre-Joseph Proudhon, donc un des figures du début du mouvement ouvrier en France au XIXe siècle. et Proudhon a adressé des critiques méconnues à un des grands savants de la philosophie allemande qui est Hegel. Et Proudhon a proposé de, plutôt que le thème du dépassement des contradictions dans une synthèse, qui est quelque chose qu'on a souvent dans une vision hegelienne, contre ce dépassement dans une synthèse, dans une harmonie, il va privilégier au contraire les antinomies, ce qu'il appelle les antinomies, c'est-à-dire les tensions, les contradictions, ou ce qu'il appelle encore l'équilibration des contraires. Donc je vais privilégier les antinomies entre les deux auteurs, les contradictions, comme un espace de tension de contradiction. Sans récuser a priori la possibilité de trouver des points d'articulation entre Bourdieu et Rancière, mais je vais plutôt privilégier la formulation d'un espace de tension entre ces auteurs. Il est parfois plus productif de penser la tension que d'essayer d'harmoniser en fait et de mettre en cohérence. Alors, une des hypothèses importantes, c'est pour ça que je fais cette séance sur les trois, c'est que dans l'idée que j'avais avancée la dernière fois de reformuler les logiciels de la critique sociale et de l'émancipation au XXIe siècle, qui est pour moi une des tâches actuelles, pour reformuler ces logiciels, il me semble que le travail sur ces deux auteurs et sur leurs tensions peut être productif, intéressant, important. Alors la dernière partie de mon exposé s'arrêtera sur, ça sera un autre registre épistémologique, deux chansons donc, dont les paroles vous ont été distribuées. L'une chantée par Michel Jonas, l'autre par Alain Souchon. Il faut un peu expliquer à quoi ça sert le recours à une autre forme culturelle comme la chanson. Dans d'autres arènes, je peux utiliser d'autres supports dans les cultures ordinaires, le cinéma, les séries télévisées ou le roman noir. Il ne s'agit pas de créer une grande équivalence culturelle en disant la chanson c'est comme la philosophie ou c'est comme la sociologie ou Souchon c'est pareil que Bourdieu et Jonas c'est pareil que Souchon, que Rancière. L'idée c'est plutôt que avec la sociologie critique, la philosophie politique et la chanson, on a trois registres culturels autonomes spécifiques, trois registres culturels. Entendu comme ce qu'un des grands philosophes du XXe siècle, Ludwig Wittgenstein, appelle des jeux de langage. Des jeux de langage, ça veut dire quoi? Il explique ça dans son grand livre Recherche philosophique. Il dit « L'expression « jeu de langage » doit ici faire ressortir que parler un langage fait partie d'une activité ou d'une forme de vie. » L'expression « jeu de langage » doit ici faire ressortir que parler un langage fait partie d'une activité ou d'une forme de vie. C'est-à-dire, les jeux de langage, c'est l'idée que le langage est inséré dans des formes de vie et d'activité particulières. C'est pour ça qu'en fonction des formes d'activité et de vie, on n'a pas forcément le même jeu de langage. Bon. Et c'est pour ça que je dirais que la sociologie, la philosophie, la chanson, le cinéma, le roman noir, sont trois jeux de langage différents qui ont leur autonomie et leur particularité parce que ils ont, disons, ils renvoient des formes d'activité et de vie différentes. Alors, il y a un biologiste qui est aussi un penseur français, Henri Atlan, qui avait suggéré dans un livre de 1986, qui s'appelait « À tort ou à raison, intercritique du mythe et de la science », un livre très stimulant, il avait suggéré un usage épistémologique de cette notion empruntée à Wittgenstein de jeu de langage. Il parlait, lui, de jeu de connaissances, l'idée que c'était des façons de connaître différentes. La philosophie, c'est une façon de connaître différente, et la biologie aussi, la sociologie aussi, autonome d'une certaine façon. Ça nous oriente, cette idée de jeu de langage et jeu de connaissances, dans deux directions. L'idée qu'il y a une autonomie de chaque registre culturel, de chaque jeu de langage, puisque chacun est basé sur des formes de vie et d'activités différentes, spécifiques. Ce qui n'exclut pas des zones d'intersection entre elles, puisqu'il peut y avoir des éléments communs, même dans leur forme d'activité. Et puis, deuxièmement, il y a cette autonomie, et deuxièmement, il peut y avoir une productivité intellectuelle des emprunts d'un genre de langage à d'autres. C'est-à-dire le fait de transférer un problème, une notion, d'un jeu de langage à un autre, de la philosophie à la sociologie, de la sociologie à la chanson, de la chanson à la philosophie. Ce qui appelle d'ailleurs un déplacement d'usage. Et si on suit Wittgenstein, l'usage c'est le sens dans le langage. Bon. Donc le sens est dépendant de l'usage. Et donc comme l'usage est différent, c'est pas exactement le même sens. C'est-à-dire le problème transférer de la philosophie dans la chanson, c'est pas exactement le même problème. Et transférer dans la sociologie, c'est plus le même problème. Donc voilà un peu comment je conçois les rapports entre ces trois registres culturels, mais on pourrait ajouter le cinéma, le roman, etc., entre la chanson ici, la philosophie, la sociologie, comme des passages transfrontaliers qui sont faits dans les deux sens, entre des registres avant, la sociologie, la philosophie, et puis un registre culturel de la culture ordinaire qui est la chanson. Et on verra d'ailleurs que le fait de transférer des questions philosophiques dans la chanson et des questions très 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 dans la chanson, dans la philosophie ou dans la sociologie, ça éclaire les problèmes. Donc ces transferts sont productifs intellectuellement. On n'y aurait pas forcément pensé en passant directement par la philosophie ou par la sociologie ou par la chanson. Donc en fait, j'espère vous montrer que les problèmes qu'on aura essayé d'épatouiller plus théoriques et empiriques dans la tension entre Bourdieu et Rancière vont se trouver éclairés d'un nouveau jour quand on va aborder les chansons de Jonas et de Souchon. Alors, dernière précision de cette introduction, pourquoi Bourdieu et Rancière? C'est lié aussi à des éléments biographiques. D'abord, Bourdieu a joué un grand rôle, disons, dans mon identité de sociologue, a joué un rôle dans mon entrée dans la sociologie et dans l'idée que je me faisais de la sociologie. Donc mon entrée dans la sociologie et Bourdieu ont un grand rapport, même si progressivement j'ai eu une sorte de distanciation, mais une distanciation qui revendique toujours une proximité, en tout cas une fidélité critique. Et donc j'ai toujours ce rapport avec Bourdieu, même s'il est plus exclusif et il n'est plus aussi fort qu'antérieurement. Rancière, c'est encore plus avant Bourdieu, c'est-à-dire qu'il se trouve que lycéen engagé d'ailleurs, très très jeune, j'ai dû faire ma première grève au collège à l'âge de 13 ans, en 5e, et après j'étais tout le temps en grève toutes les années qui ont suivi. J'ai été marqué très tôt, 75, par un livre de Jacques Rancière qui s'appelle La leçon d'Althusser. Rancière était un jeune philosophe qui a travaillé avec Althusser, qui a été un des co-auteurs d'un des livres importants de ce philosophe communiste qui était Lire le Capital. Et en 75, il rompt avec une certaine vision académique. Par ailleurs, Rancière à l'époque est engagé dans des groupes maoïstes. Et puis, après la leçon d'Althusser, ils fondent une revue très intéressante qui s'appelle Les Révoltes Logiques, qui existe entre 1975 et 1981. Et les Révoltes Logiques, c'est une expression tirée de Rimbaud, est spécialisée de la redécouverte de l'histoire ouvrière et m'a beaucoup passionné à l'époque, alors que j'étais encore lycéen. Et puis, il y a eu la publication de La Nuit des Prolétaires, qui est la thèse de philosophie, mais qui est aussi une thèse d'histoire de Jacques Rancière en 81, qui était très intéressante pour moi parce qu'elle proposait une approche très compréhensive d'itinéraire ouvrier très singulier au début du mouvement ouvrier entre 1820 et 1830, alors que je commençais une thèse de sociologie sur le syndicalisme cheminot. Et puis un peu plus tard, le livre Au bord du politique, 1990, ça ouvre des pistes assez intéressantes par rapport à Bourdieu dans une analyse du rapport entre égalité et inégalité. Et puis il y a 95 La Mésentente, en fait le grand livre de philosophie politique de Rancière qui va apporter un peu d'air frais dans la philosophie politique française puisqu'il va définir la démocratie comme mésentente, comme conflictualité, alors que à cette époque-là, c'était des théories du consensus et de l'accord qui dominaient la philosophie politique en France. Et puis, plus récemment, il y a une très belle critique qui a été faite il y a 2 ans dans Le Spectateur Émancipé, une critique assez forte des thèses de Guy Debord dans la société de spectacle. Alors ça, c'est la proximité avec Rancière, mais en même temps, très vite, une distanciation. Pourquoi? Parce que l'hostilité de Rancière à Bourdieu, très tôt, le livre de Rancière, Le philosophe et ses pauvres, 1983, une grande partie est orientée contre Bourdieu. Et puis, il y a un ouvrage du collectif Les Révoltes Logiques en 84, où il y a une contribution de Rancière. Le titre s'appelle de manière significative « L'Empire du sociologue » et c'est un livre orienté contre Bourdieu uniquement. Et donc ça m'avait semblé cet aspect-là de Rancière réitérer d'une certaine façon le combat traditionnel entre la philosophie et la sociologie pour savoir qui allait avoir le magistère d'une certaine façon, comme si c'était il fallait reconquérir le magistère de la philosophie sur la sociologie, alors que la sociologie était un savoir, comme la plupart des savoirs, qui s'étaient historiquement autonomisés de la philosophie. Ça me semblait assez réducteur, et puis il y avait une vue assez unilatérale ou réductrice de la sociologie de Bourdieu. Donc, en fait, Bourdieu et Rancière ont joué un rôle assez important intellectuellement pour moi, avec une forte tension d'une certaine manière. Et c'est que aujourd'hui que j'essaye de travailler cette tension. Ça serait un peu exploratoire. Il y a un livre qui pose des questions intéressantes, qui a été publié en 2006 de Charlotte Nordman, qui s'appelle Bourdieu-Rancière, la politique entre sociologie et philosophie, qui commence à traiter de manière intéressante le problème. Je vois dans cette tension Bourdieu-Rancière donc une sorte de nœud important pour la reformulation aujourd'hui de problèmes politiques au carrefour de la sociologie et de la philosophie. Alors je vais envisager quatre étapes successives. Il y aura des parties théoriques et puis il y aura aussi, je ferai référence à des enquêtes que j'ai menées, et donc des parties, je m'arrêterai sur quelques entretiens avec un syndicaliste cheminot, avec une téléspectatrice qui est fan d'Ali McBeal, pour travailler, disons, de manière empirique aussi le problème. Donc quatre étapes successives. La première étape, c'est une première formulation générale du problème, c'est le rapport entre capacité et incapacité, entre philosophie de l'émancipation et sociologie critique de la domination. Alors, Rancière permet de clarifier le problème, même si je ne le suivrai pas jusqu'au bout, mais il a des formulations qui permettent de clarifier le problème dans un entretien de 2009 qui s'appelle « Critique de la critique du spectacle ». Et dans cet entretien, il va ramasser toute une série de dimensions qu'il avait auparavant traitées de manière séparée. Cette formulation générale, elle est orientée contre deux auteurs essentiellement, Guy Debord avec la Société de Spectacle et Pierre Bourdieu. Alors, voilà ce qu'il reproche à Debord et à Bourdieu. Ce qu'il y a derrière, c'est la manière dont toute la tradition critique marxiste révolutionnaire a absorbé un certain nombre de présupposés inégalitaires. Donc l'idée, c'est que les critiques de cette inspiration, disons, critique marxiste, comme Debord et Bourdieu, auraient absorbé un certain nombre de présupposés inégalitaires dans leur théorie. Et il précise, il y a les actifs et il y a les passifs. Il y a les actifs, il y a les passifs. Il y a ceux qui regardent, il y a ceux qui savent. Ce qui revient en gros à dire, il y a ceux qui sont capables, il y a ceux qui ne sont pas capables. Il y a ceux qui sont capables, il y a ceux qui ne sont pas capables. Donc, premier élément, l'idée que la théorie critique de la domination, les théories critiques comme celles de Bord ou de Bourdieu, vont établir une coupure entre les capables et les incapables. Et donc, finalement, reconduire d'une certaine façon l'inégalité qu'ils sont censés simplement analyser, mais comme s'ils la reconduisaient dans leur mode d'analyse de l'inégalité. Et il précise, il y a effectivement dans le mouvement d'émancipation sociale une double possibilité dès le départ. Ou bien on pense l'émancipation comme fondée sur la capacité de n'importe qui, ou bien on part des incapacités. Ou bien on pense l'émancipation comme fondée sur la capacité de n'importe qui, ou bien on part des incapacités. Alors là, c'est l'élément important, c'est quand on analyse la réalité sociale, est-ce qu'on part des capacités des individus, des opprimés, ou est-ce qu'on part de leurs incapacités? Est-ce qu'on part de l'égalité ou est-ce qu'on part des inégalités? Bon. Alors, ça a des différences évidemment dans la connaissance et dans l'action politique. Hein. Par exemple, si on part des capacités des individus dans l'action politique, eh ben, on aura plutôt une théorie de type léniniste d'avant-garde où les gens éclairés, donc les capables, vont essayer de faire comprendre aux incapables qu'ils sont idiots et essayer de mettre les idées justes dans leur tête. Bon. Donc c'est très en lien, partir des incapacités, c'est ça, et donc ça se colle plutôt à une théorie léniniste où sous une forme autre, la théorie, disons, qui a marqué le mouvement socialiste à ses débuts, la SFIO, on pourrait dire la théorie de l'instituteur socialiste, un instituteur socialiste qui va mettre le bon savoir dans la tête des incapables. C'est le passage des capables aux incapables. Les capables vont apprendre aux incapables qui sont incapables. Alors, partir des capacités des individus ou partir des incapacités? Partir de l'égalité ou partir de l'inégalité? Alors, selon Rancière, il y aurait un risque que la domination ne prenne toute la place dans les théories critiques, quand on critique la domination, puisque les dominés tendraient à être décrits comme complètement soumis à la domination, complètement aliénés, on dit. On dit, les gens, regardez ces gens qui sont aliénés devant la télévision, devant TF1, etc., ils sont complètement aliénés. Bon. Et ça, évidemment, c'est les capables qui disent ça. Les capables, ils disent, voilà, regardez, les incapables, ils sont complètement aliénés. Bon. Il y aurait un risque que la domination ne prenne toute la place, une sorte d'envahissement inégalitaire des pensées critiques, puisque même dans cette perspective, les efforts des dominés pour s'émanciper tendraient souvent à être décrits comme une manipulation du système, comme une manipulation de la domination. C'est-à-dire que même quand les dominés essayent de s'en sortir, on va expliquer que c'est une ruse de la domination, qu'ils n'ont pas bien compris, qu'ils sont encore dans les stéréotypes de la domination, qu'ils sont, comme on dit aussi, récupérés par le système, etc., etc. Et donc, peu à peu, on enferme le discours dans la domination parce qu'on ne peut pas en sortir en dehors de ceux, évidemment, qui énoncent que les autres sont des incapables. Bon. Les opprimés seraient ainsi enfermés dans les cages de fer de la domination et leur émancipation, qui est pourtant politiquement affichée, tous ces gens disent qu'il faut émanciper, deviendrait en fait pratiquement impossible puisque finalement ils sont toujours enfermés par une façon ou une autre par les stéréotypes de la domination. Comme si, sans arrêt, l'émancipation était reculée sous prétexte qu'il y avait les pressions de la récupération du système, des ruses de la domination qui les enferment toujours plus dans la domination. C'est pour ces raisons que Rancière va faire un choix étrange. Il va décider de choisir la philosophie de l'émancipation contre la théorie critique de la domination. Donc il pose les choses comme en opposition. Il décrit ainsi dans Le spectateur émancipé, le texte dont je parlais tout à l'heure, 2008, « L'intelligence collective de l'émancipation n'est pas la compréhension d'un processus global d'assujettissement. L'intelligence collective de l'émancipation n'est pas la compréhension d'un processus global d'assujettissement. » C'est-à-dire, l'émancipation, ce n'est pas la connaissance des formes de domination, ce n'est pas la connaissance critique des formes de domination. Elle est la collectivisation des capacités investies dans les scènes de dissensus. Elle est la collectivisation des capacités investies dans les scènes de dissensus. Elle est une façon de diffuser de manière coopérative les capacités qui ont pu se déployer dans des moments de conflictualité, de moments de dissensus. Donc il oppose bien philosophie de l'émancipation, théorie critique de la domination. Le problème, évidemment, c'est que quand on parle d'émancipation, c'est émancipation par rapport à quelque chose. Comme le dit Kant, l'état de tutelle, et donc par rapport à la domination. C'est ça le paradoxe de ce choix. C'est que quand on parle d'émancipation, c'est une émancipation par rapport à la domination. Et donc, si on s'émancipe par rapport à quelque chose, pourquoi on ne pourrait pas parler de manière critique de ce quelque chose? C'est ça que dit Rancière. Il faut faire une philosophie de l'émancipation, mais qui ne soit pas une théorie critique de la domination. Pourquoi ne pas parler de la domination alors qu'il s'agit d'une émancipation de la domination? S'il n'y a pas de domination, il n'y a pas de problème d'émancipation. Et donc, le problème, c'est d'essayer de tenir compte des remarques de Rancière, de la force des remarques de Rancière, tenant ce fil, s'il y a émancipation, il y a domination, et donc pourquoi on ne peut pas tenir un discours critique sur la domination. Alors ici, il y a d'autres ressources qui vont nous permettre de déplacer le regard par rapport à Rancière. Ce sont deux sociologues qui ont travaillé avec Bourdieu, mais qui ont pris leur distance sur certains aspects, et qui sont très utiles, c'est Claude Grignon et Jean-Claude Passeron. Jean-Claude Passeron est le co-auteur des premiers livres de Bourdieu, Les héritiers et la reproduction. Et Claude Grignon est l'auteur, au début du groupe de Bourdieu, d'un livre très important sur les fonctions sociales de l'enseignement technique, l'enseignement professionnel. Alors, le livre de Grignon et Passeron s'appelle « Le savant et le populaire » et il est sous-titré « Misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature ». C'est à la fois un livre sur la sociologie et sur la littérature. Qu'est-ce qu'ils mettent en évidence, Grignon et Passeron? Ils mettent en évidence que quand on essaye d'analyser les cultures populaires, en général, mais aussi plus largement les cultures dominées, les cultures opprimées, on tend à osciller entre deux dérives. Il y a toujours deux dérives pour lui quand on essaye d'analyser une culture populaire. Première dérive, c'est ce qu'ils appellent le légitimisme. Alors, ils lui donnent deux autres mots, dominocentrisme ou encore misérabilisme. Légitimisme, dominocentrisme, misérabilisme. Alors pourquoi légitimisme? c'est parce qu'on va confronter les pratiques populaires à la légitimité dominante, de la culture dominante, bon, des groupes dominants de la société. Donc on a tendance à rabattre tout ce qui font les pratiques populaires et les cultures populaires sur les critères des cultures dominantes. Donc on a une façon d'aplatir les cultures populaires par rapport à la légitimité dominante. Pourquoi dominocentrisme ? Ben justement, on est centré sur la domination. En fait, on ne voit les cultures populaires qu'à travers les critères dominants, donc le regard des dominants. Ou misérabilisme, là-bas, justement, les cultures populaires vont être considérées comme misérables, comme du moins, comme des formes, hiérarchiquement inférieures. Donc il y a cette description misérabiliste, hein, vous voyez bien, quand on va décrire les milieux populaires comme des beaufs ou des bœufs qui sont avachis devant leur télévision et abrutis par la télévision, etc., voilà, c'est typique, disons, de la vision misérabiliste ou dominocentriste. Mais il y a une autre dérive quand on analyse les cultures populaires ou les cultures dominées, c'est ce que Grignon et Patron appellent le populisme. Alors, ce n'est pas populisme au sens où le mot a dans le discours politique, c'est un sens plus sociologique, plus spécifique. Ce sont des analyses qui vont plutôt sacraliser les cultures populaires comme des entités complètement autonomes ou indépendantes, et qui vont oublier que ces cultures populaires et les cultures dominées en général tiennent certaines de leurs caractéristiques du fait qu'il y a les contraintes de la domination. En fait, c'est des façons de penser les cultures populaires et les cultures dominées qui oublient les contraintes de la domination. Et donc on aura là, c'est pas la vision misérabiliste des beaufs avachis devant leur télévision, etc. Ça va être la liberté de la culture populaire, le génie, etc., populaire, etc. Et en oubliant que, en même temps, il y a de la domination dans la société. Bon. Deux dérives quand il s'agit d'analyser les cultures populaires ou les cultures dominées en général. D'une part, légitimisme, dominocentrisme, misérabilisme, d'autre part, populisme. Alors, si on reprend les catégories de départ de Rancière, on pourrait dire que le dominocentrisme, ça part de l'inégalité. Hein. Avoir une vision légitimiste, ou dominocentrique, ou misérabiliste, ben justement, on part de l'inégalité, on part des incapacités des acteurs, hein, des opprimés. Alors que le populisme, lui, il part des capacités des opprimés. Il part de l'égalité des capacités des opprimés. Hein. On voit bien comment on peut superposer les deux choses, hein. Partir des incapacités, légitimisme, misérabilisme, partir des capacités, populisme. Donc, Grignon et Patron peuvent rejoindre avec le premier point la critique que Rancière fait de Bourdieu et de Bord. C'est-à-dire le danger du dominocentrisme, du misérabilisme, c'est-à-dire de réduire les pratiques populaires et les cultures populaires aux incapacités, hein, des opprimés. Mais en même temps, le deuxième point se présente comme une critique de Rancière, c'est-à-dire partir des capacités, c'est oublier les contraintes de la domination. Et donc, dans le langage de Grignon et Patron, Rancière serait populiste, elle serait dans la logique de la tendance populiste. Parce qu'il refuse de décrypter de manière critique les contraintes qui pèsent sur les dominés comme sur leur rapport, disons, diversifié à l'émancipation. Et là, on pourrait dire que Grignon et Patron, qui ont été proches à un moment de Rancière, redeviennent plus proches de Bourdieu. Ce qui fait que dans le livre, qui est aussi un dialogue entre Grignon et Passeron, ça débouche sur une hypothèse chez Passeron, l'hypothèse de l'ambivalence significative des réalités symboliques, qui appelle une double lecture. Les réalités symboliques, dont les cultures populaires, les réalités culturelles, ont une ambivalence. Bon. Elles, on peut justement avoir une double lecture, la lecture misérabiliste et la lecture populiste. C'est en quelque sorte, chez cette idée d'ambivalence, de double lecture, c'est en quelque sorte chez Passeron l'appel à ce qu'on puisse prendre la question par les deux bouts. C'est l'idée que, et si on essayait d'appréhender les cultures populaires et les cultures opprimées par les capacités des opprimés et par leurs incapacités en même temps. Bon. Prendre par les deux bouts au lieu d'opposer les deux stratégies. Dans cette perspective, si on pouvait partir à la fois des capacités et des incapacités, une sociologie critique de la domination ne serait pas nécessairement un obstacle à une logique émancipatrice. Alors, C'est quelque chose qui a à voir avec la connaissance de l'émancipation, la philosophie de l'émancipation et la sociologie critique de la domination, mais c'est aussi quelque chose qui a à voir directement avec la politique. Évidemment, on ne fait pas la même politique si on part des capacités ou des incapacités des opprimés. Je le disais tout à l'heure. Si on part des capacités, on va davantage être dans une logique d'auto-émancipation des opprimés. Si on part des incapacités, on va être plutôt dans une logique d'avant-garde révolutionnaire qui va prendre la place des opprimés. Et donc les opprimés ne vont pas s'émanciper eux-mêmes, mais vont être émancipés par d'autres, comme jadis on émancipait les esclaves. Bon. Évidemment, s'émanciper et émanciper, ce sont deux choses différentes. Mais en même temps, si on ne prend pas en compte les contraintes de la domination, donc les incapacités aussi, on aura sans doute une vision assez idéaliste de ce que c'est que l'auto-émancipation. Donc c'est des problèmes, ces problèmes de sociologie sont aussi des problèmes directement politiques. Alors, c'est simplement pour signaler les choses, deux livres récents pourraient nourrir cette nouvelle perspective qui associerait une sociologie critique à une philosophie de l'émancipation, c'est-à-dire partant à la fois des capacités et des incapacités des opprimés. En philosophie politique, c'est le recueil de textes d'un philosophe peu connu, mais très, très important, très original, qui s'appelle Miguel Abensur. Et en 2009, est sorti un recueil de textes qui s'appelle Pour une philosophie politique critique, qui va réunir des textes qui vont de 1974 à 2008. Et justement, l'ensemble de ces textes, ça vise à essayer d'associer une tradition de théorie critique de la domination, par exemple dans la tradition allemande de l'école de Francfort, de gens comme Adorno, Horkheimer, et puis en même temps, une pensée de l'émancipation, et notamment, Abensur est un spécialiste de la pensée utopique depuis de nombreuses années, depuis une trentaine d'années. Donc c'est là, chez Abensur, en philosophie politique, qu'il y a la tentative de croisement des deux. En sociologie, ce qu'il faut signaler dans cette perspective, c'est l'ouvrage de Luc Boltanski, le dernier ouvrage de Boltanski, le sociologue, qui s'appelle « De la critique » et qui est sous-titré « Précis de sociologie de l'émancipation ». On voit bien « De la critique » et le sous-titre « Précis de sociologie de l'émancipation ». Ça s'efforce, là aussi, là, sur le plan d'une sociologie, pas d'une philosophie, d'articuler un nouvel espace entre une sociologie de critique de type Bourdieu. À une certaine époque, Boltanski a commencé sa carrière en travaillant avec Bourdieu. Il était un des membres importants du groupe en sociologie de Bourdieu. Donc, à articuler une sociologie critique de type Bourdieu avec une sociologie qu'il appelle pragmatique, et c'est en fait le type de sociologie qu'a mené Boltanski à partir du milieu des années 80, c'est-à-dire une sociologie qui a davantage intéressée aux capacités des acteurs ordinaires pour analyser la vie sociale, leurs compétences, et notamment leurs compétences critiques. Mais en parlant moins de la question de la domination. Et donc, l'objet de ce livre, c'est d'essayer de réunir les deux ou de faire un pont entre les deux, une sociologie de critique de type Bourdieu, une sociologie pragmatique qui prend en compte les capacités des acteurs, et notamment leurs compétences critiques, à critiquer la société. Bon, il n'y a pas que les sociologues qui critiquent, ou les philosophes. Alors, une précision apportée par rapport à ces deux tentatives, Abensur et Boltanski, c'est que l'effort d'articulation, c'est par rapport à ce que j'ai dit dans mon introduction, l'effort d'articulation ne doit pas faire oublier la tension, je dis équilibration des contraires, antinomie de Proudhon. Cet effort d'articulation entre les deux ne doit pas faire oublier qu'il y a aussi une tension. Tension qui est pointée philosophiquement par Rancière, justement, puisque Rancière pointe l'idée qu'il y a toujours un risque de recouvrement de la possibilité de l'émancipation par le discours critique de la domination. Le discours critique de la domination peut faire que la domination prend trop de place et rend à un moment donné impossible l'émancipation. Et donc il y a toujours ce risque, c'est pour ça qu'il reste une tension. Et cette tension a été pointée sociologiquement par Grignon et Passeron, justement dans le double risque de ressurgissement des écueils du misérabilisme et des écueils du populisme. Voilà la première entrée, qui est une première formulation, en fait la plus générale, la plus théorique, de la façon dont on peut appréhender les tensions entre Bourdieu et Rancière. On aura un deuxième temps qui est un temps plus spécifique, qui va rejoindre des éléments, mais de manière plus précise. Alors, Rancière, c'est ce que j'ai appelé des effets de la phrase égalitaire. les effets de la phrase, les phrases du discours égalitaire, de la phrase égalitaire. Rancière, dans un texte de 90 qui s'appelle les usages de la démocratie, va critiquer, encore une fois, Bourdieu et Passeron, donc les deux livres phares de Bourdieu et Passeron, la première période de Bourdieu, Les héritiers 1964 et La reproduction 1970 sont deux livres sur la façon dont le système scolaire reproduit les inégalités. Hein. Ce sont les deux livres qui ont marqué, disons, la première intervention de Bourdieu. Ils sont coécrits avec Jean-Claude Passeron. Et Rancière donc critique ces deux livres. Il écrit notamment cette analyse, l'analyse de Bourdieu et Passeron, porte ainsi à son extrême la pensée du soupçon qui fait de l'homme démocratique l'homme abusé par les formes à travers lesquelles la division se perpétue. Cette analyse porte ainsi à son extrême la pensée du soupçon qui fait de l'homme démocratique, l'homme abusé par les formes à travers lesquelles la division se perpétue. C'est-à-dire que le danger, c'est que, en critiquant les inégalités qui existent derrière le discours égalitaire, hein, c'est ce que font un peu Grignon et Passeron, il y a un discours égalitaire dans le système scolaire, mais en fait, derrière ce discours égalitaire, ils vont montrer qu'il y a des inégalités. Il y a peu à peu un soupçon qui va se développer contre tout discours égalitaire susceptible d'être le masque de l'inégalité, susceptible d'être un paravent, simplement. Et contre cette tendance, il va affirmer au contraire la puissance symbolique et pratique de ce qu'il appelle la phrase égalitaire, du discours égalitaire. Il écrit là, la phrase égalitaire n'est pas rien, hein, le fait de dire il y a de l'égalité. La phrase égalitaire n'est pas rien. Cette puissance est d'abord de créer un lieu où l'égalité peut se réclamer d'elle-même. Cette puissance est d'abord de créer un lieu où l'égalité peut se réclamer d'elle-même. Il y a quelque part de l'égalité, cela est dit, cela est écrit, donc cela doit pouvoir se vérifier. Une pratique peut se fonder là qui se donne pour tâche de vérifier cette égalité. Ce qu'il dit, c'est qu'on ne doit pas concevoir le discours égalitaire, le discours sur l'égalité, comme simplement un paravent qui masque l'inégalité. Puisque le discours égalitaire a une force propre, une force symbolique. Il affirme la possibilité de l'égalité, une force pratique, parce que, à partir de là, si j'ai le mot égalité, je peux créer une pratique qui essaye de vérifier, justement, la possibilité de l'égalité. Alors que si je ne dispose même pas du mot égalité, je ne peux pas le faire. Donc, ce que nous dit Rancière, c'est qu'il ne s'agit pas d'aplatir trop vite les paroles égalitaires comme étant des illusions masquant la domination, masquant l'inégalité. Les paroles égalitaires peuvent avoir des effets pratiques et symboliques qui peuvent soutenir le processus d'émancipation égalitaire. Voilà ce que nous dit Rancière. Alors, sur ce point, il me semble que des points d'articulation sont envisageables entre Rancière et Bourdieu. Tout d'abord, les héritiers et les reproductions, c'est plus compliqué, comme le dit Rancière, et notamment la conclusion des héritiers se termine sur ce que Bourdieu et Passeron appellent une démocratisation réelle de l'enseignement. Donc il y a bien l'idée que la démocratisation, il y a une fausse démocratisation, mais il peut y avoir une vraie démocratisation, hein, démocratisation. Et donc ça veut dire qu'il y a au moins implicitement la vision égalitaire, la visée égalitaire comme point d'appui implicite. Mais une visée égalitaire qui ne serait pas illusoire, une vraie égalité, pas une fausse, cette fois-ci. Donc ça veut dire que tout discours égalitaire n'est pas soupçonné comme étant le masque de l'inégalité, dans ce cas-là. Donc, le problème que met en évidence Rancière est un problème réel qui pourrait se poser aussi à certains discours marxistes qui vont souvent critiquer les discours égalitaires, démocratiques, etc., comme étant des masques des illusions, qui masquent la domination, l'inégalité, etc. Le danger, c'est que, peu à peu, si on soupçonne tout discours égalitaire ou tout discours démocratique de simplement une illusion ou un masque, on ne voit plus comment serait possible l'égalité et la démocratie. Donc c'est un problème réel que met en évidence Rancière, même s'il tend à caricaturer ce que écrivent exactement Bourdieu et Passeron. Donc c'est un premier élément qui montre qu'il peut y avoir un point d'articulation entre les deux. Les deux ne sont pas si opposés que ça. Deuxième élément, c'est plutôt des choses que Bourdieu va écrire plus tard, dans les années 80, une série de textes. Il va emprunter une notion à un philosophe américain, un philosophe du langage américain qui s'appelle John Austin. John Austin, notamment, est quelqu'un qui a travaillé sur l'idée de la notion de performatif dans le langage. Le performatif, c'est quelque chose qui, c'est, disons, une modalité du langage qui en énonçant quelque chose, le fait advenir. Alors, Bourdieu, lui, s'est intéressé aux dimensions performative du discours politique. Dans les années 80, il y a toute une série de textes sur le discours politique et sur ses dimensions performatives. Par exemple, voilà ce qu'il écrit dans un texte de 80, « Énoncé performatif, la prévision politique est par soi une prédiction qui vise à faire advenir ce qu'elle énonce. Énoncé performatif, la prévision politique est par soi une prédiction qui vise à faire advenir ce qu'elle énonce. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je lance la classe ouvrière est unie contre le patronat et le gouvernement. C'est un énoncé qui fait comme si c'était un constat. Mais en fait, c'est un énoncé typique du langage politique, c'est un énoncé performatif, c'est-à-dire qui s'efforce de faire advenir ce qu'il énonce comme un constat. La classe ouvrière est unie face au patronat et au gouvernement. En fait, dans les faits, c'est pas ce qui existe, mais le langage politique vise... utilise des phrases qui sont de l'ordre du constat pour faire advenir ce constat dans le futur. C'est ça la dimension performative et souvent le discours politique est performatif. J'ai encore entendu ce matin François Bayrou sur l'idée que c'est la solution par rapport aux deux blocs, etc., que c'est lui qui va gagner la présidentielle, etc. Là, on est typiquement dans la dimension, disons, performative du discours politique. Ça ne veut pas dire que ça marche toujours. Le performatif ne marche pas toujours, il faut certaines conditions sociales. Et Bourdieu ajoute dans le même texte la prévision politique, donc, elle contribue pratiquement à la réalité de ce qu'elle annonce par le seul fait de l'énoncer. Elle contribue pratiquement à la réalité de ce qu'elle annonce par le seul fait de l'énoncer. De la prévoir et de la faire prévoir, de la rendre concevable et surtout croyable, et de créer ainsi la représentation et la volonté collective qui peuvent contribuer à le produire. C'est-à-dire en énonçant la classe ouvrière est unie contre le gouvernement et le patronat, je contribue pratiquement à la réalité de ce que j'annonce en l'énonçant, en le faisant prévoir, en rendant concevable, croyable par une série de gens qui peuvent se mobiliser et pour qui ça peut avoir un sens. Bon. Alors je dis il faut des certaines conditions sociales. Si je dis la classe ouvrière est unie, il y a une série de conditions sociales qui peuvent non pas faire l'idée qu'elle soit unie globalement, mais que la réalité soit moins éloignée de l'énoncé. Parce que par exemple il y a des institutions de mobilisation, comme des syndicats, des associations, etc., qui le rendent possible. Si je dis les personnes les plus dominées dans le monde aujourd'hui sont les personnes à crâne rasé et à barbe, comme moi. Ils sont opprimés par ceux qui n'ont pas de barbe, qui ont des cheveux. Et donc, l'avenir de l'humanité est au crâne rasé avec barbe dans leur lutte contre tous les autres. Bon. Si j'énonce ça et si j'essaye par exemple de créer un parti politique, un syndicat, une association qui va... considérer que la société, l'opposition de la société centrale, c'est l'opposition entre ceux qui ont le crâne rasé et la barbe et tous les autres. Et si je fais des tracts pour ça, si je lance des appels sur Internet, il y a peu de chances que j'arrive à constituer un mouvement social énorme qui, disons, structure la politique dans la société française ou ailleurs. Bon, vous voyez bien. Donc, il ne suffit pas d'avoir du performatif pour que ça marche. Bon. Donc, il faut aussi certaines... conditions, mais le performatif, c'est l'idée que le fait même d'énoncer sous la mode d'un constat une série d'éléments contribue à le rendre possible. Bon. Donc, cette dimension performative du discours politique. Le discours politique est souvent performatif, donc, dit Bourdieu. Avec cette idée de performatif, qui intervient bien après les héritiers de la reproduction, c'est une dizaine d'années après, une quinzaine d'années après, Bourdieu peut rejoindre ici Rancière. Puisque Rancière, justement, qu'est-ce qu'il note? Il note les effets symbolique et pratique de la phrase égalitaire, du discours égalitaire. D'autant plus que Rancière dit « la phrase égalitaire n'est pas rien ». Il ne dit pas, comme Bourdieu d'ailleurs, que c'est tout. Que quand je dis « il y a l'égalité, c'est ce qui existe ». Il dit que ce n'est pas rien. Bon. c'est important. Donc là, il y a une fois une jonction possible avec les, l'intérêt pour la dimension performative du discours politique qu'on a trouvé chez Bourdieu par la suite. Alors, reste toujours la prise en compte de la tension des écueils qui peuvent ressurgir. Parce que là, il y a des bouts d'articulation, mais ça n'élimine pas complètement la tension. Il y a toujours le problème d'éviter que la critique des masques égalitaires de l'inégalité n'emporte le dessus et ne crée une sorte de soupçon généralisé toujours vis-à-vis de tout discours égalitaire. On pourrait dire aussi que il y a toujours la possibilité aussi que la prise en compte des effets émancipateurs des discours égalitaires, il y a bien des effets émancipateurs des discours égalitaires, oublie qu'il y a aussi des usages reproducteurs des discours égalitaires pour reproduire les formes d'inégalité de domination. Donc, il y a toujours une tension, les points d'articulation n'éliminent pas la tension entre le problème. Il y a toujours ce problème en tension. Donc, premier point, la formulation générale du problème autour de capacité-incapacité. Deuxième temps, ce problème des effets de la phrase égalitaire et de la tension entre Bourdieu et Rancière là-dessus. Troisième temps, c'est ce que j'ai appelé de l'allodoxia à l'ambivalence. Ça tourne autour de la notion d'allodoxia, A-2-L-O-D-O-X-I-A. Là, je vais utiliser un certain nombre d'éléments pris de plusieurs des enquêtes sociologiques. Alors d'abord, préciser les choses. La notion d'allodoxia donc, est utilisée par Pierre Bourdieu dans un livre qui s'appelle « La distinction », un livre assez connu de Bourdieu, qui est très lié, qui est une analyse des classes sociales dans la France contemporaine. C'est un livre de 1979. Allodoxia est tiré du grec ancien, allo du grec allos, c'est-à-dire autre, doxia du grec doxa, opinion. Pour Bourdieu, il s'agit de l'allodoxia d'une erreur d'identification. C'est quand j'essaye d'identifier un phénomène et j'utilise des critères sociaux qui sont inadaptés par rapport à la hiérarchie sociale. Donc c'est une notion qui dit une certaine méconnaissance, en pointant le caractère, disons, malhabile culturellement de ceux qui n'ont pas l'habitude, qui ne sont pas dans les codes culturels dominants, mais qui vont manifester une bonne volonté culturelle. Ça vise notamment souvent la petite bourgeoisie, mais ça peut viser aussi les autodidactes et ça peut aussi viser des membres des classes populaires. L'allodoxia se présente alors comme une erreur d'identification et ce que Bourdieu appelle le règne du simili. L'allodoxia, c'est par exemple de confondre le simili cuir avec le cuir. C'est de confondre Richard Clayderman avec la grande musique. C'est ça l'allodoxia pour Bourdieu. C'est une erreur d'identification. Bon. Pour quelqu'un qui ne possède pas les codes dominants. Bon. Les codes culturels adaptés au jugement. Bon. Alors voilà, là on va avoir un problème important parce que face à ça, Rancière, au contraire, va prendre l'allodoxia comme un terme positif. Et on va voir l'opposition. C'est notamment, justement, parce que, je l'ai dit, sa thèse, elle porte sur les itinéraires des premiers énonciateurs de la parole ouvrière entre 1820 et 1830, en France. Et le risque de l'allodoxia, c'est de condamner ces militants ouvriers, ces premiers militants de la parole ouvrière, comme étant des gens qui sont dans le simili, qui sont dans l'erreur d'identification. Hein. Qui sont hors des codes dominants. Donc ça risque d'enfermer, disons, ces militants ouvriers dans la domination. C'est ce qu'il écrit, disons, dans le livre « Le philosophe et ses pauvres », donc je l'ai dit, un livre de 1983. Je cite un passage. « Les premiers militants ouvriers ont commencé par se prendre pour des poètes ou des chevaliers, des prêtres ou des dandys. » Donc ça, c'est un élément intéressant du travail de Rancière, c'est-à-dire les premiers militants ouvriers se mettent à aller au café, à discuter avec des philosophes, avec des poètes, écrivent des traités de philosophie, écrivent des traités de poésie, etc. etc. Bon. Et Rancière dit « allodoxie qui est la seule voie de l'hétérodoxie ».« Allodoxie qui est la seule voie de l'hétérodoxie bon, ». Ils empruntent des éléments au code dominant. Passion d'emprunt, il utilise le mot « passion d'emprunt », usant des seuls mots qui rendent possible la réappropriation des mots d'emprunt. Donc, pour Rancière, l'allodoxie, c'est emprunter leurs mots ou leurs éléments aux autres, et c'est un élément de l'émancipation. Et donc on voit bien deux visions différentes de l'allodoxie. D'un côté, la lodoxie, c'est au contraire l'effet de la domination. C'est le fait que des membres de la petite bourgeoisie ou des classes populaires sont malhabiles, sont dans la méconnaissance des critères dominants et donc font de mauvais choix. Ils prennent Richard Clayderman pour la grande musique, voilà. Et la vision de Rancière où la lodoxie, le fait d'emprunter des éléments, c'est justement comme ça qu'on construit une émancipation. On voit bien deux figures différentes, hein. Toujours l'idée de l'ombre portée de la domination et de l'autre, le processus d'émancipation. C'est pour ça que Rancière va critiquer la démarche de Bourdieu comme maintenant une sorte d'écart éternisant entre les dominés et l'émancipation. Une sorte d'écart éternisant avec ce qu'il identifie le simili. Parce que le risque, c'est de toujours considérer que les opprimés, les dominés, seront dans le simili de l'émancipation, dans la fausse émancipation. Qu'ils n'auront pas la vraie, qu'ils n'auront pas les bons critères dominants. Bon. Qu'ils seront toujours dans le Richard Clayderman, alors qu'ils croiront être dans la grande musique de l'émancipation. Bon. Et donc, c'est le risque d'enfermer les dominés dans le simili de l'émancipation et de faire que finalement jamais l'émancipation sera possible pour eux. Pour Rancière, la posture sociologique instaurait alors le soupçon partout où se tenait l'image du partage et de l'équivoque à la frontière des classes. Ces premiers militants ouvriers, ils sont dans le métissage, ils empruntent des ressources, ils sont dans l'équivoque, dans l'ambiguïté. Ainsi, selon Rancière, la critique sociologique dit le règne éternel de la petite différence. La critique sociologique dit le règne éternel de la petite différence. Mais il y aura toujours une différence entre celui qui possède les codes culturels et celui qui essaye de les approprier, mais de manière malhabile. Il y aura toujours un écart et donc il sera toujours enfermé dans la domination et donc finalement l'émancipation n'est jamais complètement possible. Le règne éternel de la petite différence. Pour nier que le sujet de la démocratie puisse jamais advenir. Et Rancière ajoute dans un texte de 90, la routine indéfinie de la démystification impose toujours une manière de penser et de pratiquer la démocratie sur le mode du soupçon, comme s'il fallait lui faire avouer toujours qu'elle n'est pas ce qu'elle prétend être, que ceux qui la pratiquent sont perpétuellement dans l'illusion de ce qu'ils font. Un soupçon qui fait que ceux qui croient s'émanciper, ben, ils sont toujours dans l'illusion, ils sont toujours dans la domination, et la sociologie doit toujours leur apprendre qu'ils sont dans l'illusion. Mais alors, quand vient l'émancipation? Ce règne, disons, éternel de la petite différence et de l'illusion. Alors, pour mieux travailler cette question, parce qu'en même temps, on a bien un effet de domination qui est pointé par Bourdieu, la lodoxia, et de l'autre, le fait que le discours sociologique peut être une entrave à la question de l'émancipation. Et là, on est bien dans la tension. Alors, deux exemples tirés d'enquêtes de terrain vont me permettre d'approfondir les choses. Alors, premier exemple, c'est un exemple, j'ai appelé ça Pierre l'infini. Pierre, c'est le prénom, l'infini et le mal à l'estomac. C'est un exemple d'un entretien prélevé sur, qui était mon terrain de thèse dans les années 80, l'ethnographie locale du syndicaliste cheminot. Alors, c'est l'extrait d'un entretien semi-directif en 86 avec Pierre, donc militant de Force ouvrière à la retraite, 58 ans à l'époque. Son père avait commencé comme manœuvre, lui avait fini avait fini agent de conduite dans les chemins de fer, c'était pas encore la SNCF. Et Pierre lui-même a un CAP d'ajusteur au départ, puis passe par une formation interne de la SNCF, commence comme ouvrier professionnel, devient agent de conduite et finit, avant de prendre sa retraite, cadre. Il prend sa retraite à 52 ans. Et au moment de sa retraite, puisque une retraite prise tôt, c'est la possibilité de ceux qui ont été agents de conduite à la SNCF jusqu'à présent, il fait des études à la retraite, bon, à 52 ans. Il s'inscrit d'abord à des cours du soir à la Bourse du Travail, et puis il s'inscrit à l'université. Donc, à 54 ans, il s'inscrit à l'université, et il va obtenir un DUT de communication journaliste. Bon, il a repris des études tardivement, et il a un DUT. Et voilà comment il voit de manière critique l'intellectuel par rapport à l'esprit pratique. Il va faire cette distinction entre l'intellectuel et l'esprit pratique, par rapport en référence à son expérience universitaire tardive, vers 54 ans. Je cite l'extrait d'entretien. Alors disons que l'intellectuel pur, quoi, il y a beaucoup de vapeur, tu vois. C'est une nébuleuse pour trouver l'idée maîtresse, l'idée qui va se concrétiser, qui va tirer quelque chose, quoi. Autrement dit, je trouve qu'ils n'ont pas assez, eux, ils n'ont pas un esprit assez pragmatique. Un esprit qui se perd avec des théories, des possibilités, avec des combinaisons. Alors, non, je dis non. Alors que celui qui a l'esprit pratique, il se dit, bon, mais ça, c'est pas la peine, hein. Et de suite, tu as le champ de réflexion opérationnelle est canalisé. Alors, oui, là, ça va vite. Là, on a une opposition, disons, entre l'esprit pratique et l'intellectuel. Alors, à un autre moment, il reconnaît au contraire l'importance du travail de réflexion qu'il a eu pendant l'université. Il qualifie ça de bénéfique sur le plan personnel, ses 2 ans de vie universitaire, avec des étudiants beaucoup plus jeunes que lui. Et il explique que cette tendance a tendance à manquer dans le monde ouvrier, donc, dont il est issu. Et donc c'est comme s'il pointait en fait 2 types de limitations dans son discours, les limitations ouvrières auxquelles répondent les limitations symétriques des intellectuels. Le danger pour l'intellectuel, ce serait de se perdre, comme il dit, dans une multiplicité de possibilités, de combinaisons, d'où la nécessité, comme il dit, de canaliser. Et pour Pierre, l'esprit pratique, issu de son expérience familiale, professionnelle, militante, constitue alors un garde-fou par rapport au vertige, on pourrait dire, de la réflexion universitaire. Et on va voir que les vertiges de la réflexion universitaire peuvent mener jusqu'à l'angoisse. J'aimerais regarder l'astronautique. Alors il dit l'astronautique, mais il pense à l'astronomie. J'aimerais regarder l'astronautique, mais ça débouche sur une réflexion sur l'infini. Alors là, je peux pas. Je perds mon équilibre psychique, hein. Ça me tourne l'estomac. Je peux pas. L'infini, bon, mais après le couvercle d'une boîte, il y a ça. Alors là, il me montre une boîte. Et puis après, il y a du vide. Et puis après, mais alors, imaginez l'infini, ce qui ne finit jamais, pour moi, c'est inaccessible à l'homme. Je peux pas. Alors là, non. Là, je suis malade, ça me rendrait fou, quoi. C'est vraiment un point, je dis que c'est ce qui me trouble le plus. Bon. Donc, on pourrait tout à fait interpréter ce passage de manière bourdieusienne, avec l'idée d'allodoxia. Et on dirait qu'il y a une erreur d'identification. Il y a un rapport autodidacte au travail intellectuel qui fait qu'il ne possède pas les bons codes. Par exemple, il fait une connexion qui normalement n'est pas habituelle entre la réflexion philosophique et le mal à l'estomac, bon, qui évidemment serait typiquement identifié comme de l'allodoxia, justement. Mais si on faisait ça, justement, on serait du côté d'un aplantissement misérabiliste de l'expérience de cette personne et du rapport au monde que manifestent ses propos. Si on prend davantage au sérieux la façon dont Pierre construit son rapport singulier au monde intellectuel, justement dans les tensions entre le pôle pratique et le pôle intellectuel, on verrait que là, il y a quelque chose comme un déplacement de la hiérarchie culturelle dominante traditionnelle. Parce que la hiérarchie culturelle dominante, c'est justement l'esprit en haut et le corps en bas. Bon. La philosophie en haut, l'estomac en bas. Et on peut observer, dans ce cas-là, si on prend au sérieux ça, on peut observer alors des tâtonnements dans une logique d'émancipation, qui passe, comme le dit Rancière, par des emprunts au monde intellectuel, et par des métissages. On a bien un métissage entre le monde de l'esprit intellectuel et le monde de l'esprit pratique. Si on fait ça, évidemment, on est du côté de Rancière. On s'éloigne de la tendance, disons, légitimiste, misérabiliste de la notion d'allodoxia, chez Bourdieu, qui est justement toujours prompt à soupçonner l'authenticité intellectuelle des discours populaires autodidactes ou petits bourgeois. Alors, cette tendance légitimiste, misérabiliste, est associée parfois chez Bourdieu à une forme d'essentialisme de l'authenticité populaire. C'est quelque chose de très paradoxal chez Bourdieu, c'est qu'à la fois il y a une sorte de valorisation de l'authenticité populaire, mais en même temps une façon de la dévaloriser, en faisant une sorte d'essence d'un seul bloc. Bourdieu analyse ainsi, toujours dans le livre La Distinction, les discours des militants ouvriers. Bon, militants, là, on est du côté des syndicalistes, pas des ouvriers classiques, mais des militants ouvriers. Et il va analyser les discours des militants ouvriers, comme dit-il, marqués par une dualité. Alors, quelle est cette dualité? Je cite Bourdieu. D'un côté, les formules toutes faites, petits blocs infécables de pensées et de paroles préfabriquées qui donnent aux propos leur couleur d'universalité conceptuelle, mais aussi leur air de leçons bien apprises de cette sorte d'irréalité si caractéristique des dissertations. Là, ça taille, on peut dire, c'est-à-dire le discours intellectuel du militant ouvrier est en fait un faux discours intellectuel, préfabriqué, une sorte de préfabriqué. L'autre aspect, c'est les références plus concrètes à l'expérience immédiate dans sa singularité indépassable qui confère sa réalité, sa plénitude, son authenticité au discours. Comme si c'est le rapport à la pratique uniquement qui est l'authentique pour les militants ouvriers, et comme
Le fait de s'approprier des ressources intellectuelles renvoie à l'inauthenticité. On a cette dualité. Et ici, Bourdieu, en figeant ces deux figures, contribue à construire ici une sorte de différence de nature entre ce qui serait une authenticité intellectuelle et ce qui serait une authenticité populaire. Alors que l'approche de Rancière est beaucoup plus souple, plus mobile, puisqu'elle reste sensible au bouger, au métissage. Comment, par des cheminements ordinaires de l'émancipation, on va métisser ces éléments de forme de ressources intellectuelles et de ressources de l'expérience populaire. Mais en même temps, et il faut pas en rester là, on n'est pas au pays de Bisounours, et bien les contraintes de la domination existent bien. Bon. Et donc on doit intégrer aussi une part de vérité de la critique sociologique sous peine de suivre une pente populiste qui rendrait mal compte d'autres caractéristiques du discours de Pierre. Ce discours d'ailleurs lui-même intègre d'une certaine façon les contraintes de la domination. Il y a à la fois chez lui de la distance par rapport au monde intellectuel, il voit bien qu'il y a une distance et une révérence qui marque une certaine hiérarchie. Et donc la domination n'est pas, l'idée de domination n'est pas complètement absente de son propre discours vis-à-vis du monde intellectuel. Et lui-même se reconnaît à plusieurs moments volontiers malhabile vis-à-vis des ressources intellectuelles. Il ne se présente pas comme quelqu'un qui maîtrise. Il y a bien quelque chose où il y a du malhabile dedans. Vis-à-vis des ressources et des marges d'un monde qui n'est pas le sien à l'origine. Donc la coupure initiale des mondes sociaux, le monde ouvrier, le monde intellectuel, est bien ressentie par lui dans son discours. Elle n'est pas complètement absente. Et puis il y a cet autre aspect qui est l'angoisse physique, hein, face à l'infini et la réflexion infinie. Là, ce mal à l'estomac, cette idée de ce blocage qui crée une angoisse. Quoi. Ici, on peut dire qu'il y a une marque dans le corps des différences des deux mondes, du monde intellectuel et du monde ouvrier. Ça se marque dans le corps parce que ça se marque dans l'angoisse. Ça se marque pas complètement, pas par la verbalisation aussi, mais par comme un mal au cœur, un mal au ventre. Bon. Et là, on retrouve les analyses de la domination de Bourdieu. Par exemple, Bourdieu note dans les Méditations pascaliennes, un livre de 97, il parle des limites imposées qui prennent souvent la forme de l'émotion corporelle, les limites imposées par l'ordre social, les formes de domination. Honte, timidité, anxiété, culpabilité. Donc, cette émotion corporelle se trahit dans des manifestations visibles comme le rougissement, l'embarras verbal, la maladresse, le tremblement, autant de manières de se soumettre, fût-ce malgré soi et à son corps défendant, au jugement dominant, autant façon d'éprouver dans le conflit intérieur et le clivage du moi, la complicité souterraine d'un corps qui se dérobe aux directives de la conscience et de la volonté, et entretient donc avec la violence des censures inhérentes aux structures sociales. Donc, ce que rappelle ici Bourdieu, c'est que la domination, elle passe par le corps, par des formes d'émotions qui ne sont pas maîtrisées et qui marquent aussi le rapport au monde. Et ces émotions, elles sont là, et donc il ne faut pas oublier l'angoisse, par exemple, par rapport à l'infini, il ne faut pas oublier cette inscription corporelle, émotionnelle, de la domination. Donc, le point de vue de Rancière est réintroduire la question de la domination. Et la domination, quand elle est peu consciente, quand elle est surtout à travers le corps, est moins verbalisée. Bon, et plus spontanée d'une certaine façon. On pourrait dire là qu'on y a une série d'emprunts de métissage émancipateur d'une part, d'autre part des contraintes incorporées de la domination dans le corps. Bon, emprunt et métissage émancipateur, contraintes incorporées des dominations. Ben, justement, il faudrait ne pas avoir à rabattre l'un sur l'autre pour justement appréhender l'ambivalence, pour reprendre le mot de Passeron, en assumant la tension entre les deux. Donc c'est ce premier entretien, qui était un peu plus long, nous permet de mieux situer concrètement cette tension Rancière-Bourdieu. Il y a un deuxième entretien, je serai plus court, c'est une autre enquête, faite au cours des années 2000, je l'ai intitulé Dominique, Ali McBeal et leurs mots à eux. Donc, c'est lors d'une enquête que j'ai menée sur la réception en France d'une série télévisée américaine, Ali McBeal. Donc, Dominique, c'est le nom de l'interviewé, c'est un entretien qui a été fait en 2003. Au moment de l'entretien, elle a 39 ans, elle est femme de ménage pour des personnes âgées depuis peu, mais elle a surtout vécu avant, ça fait 2 ans, 3 ans qu'elle doit être femme de ménage. Avant, elle a vécu surtout d'aide sociale au cours de sa vie adulte. Bon. Elle a connu une situation sociale difficile dès l'enfance, une famille nombreuse, proche de la pauvreté. Elle a eu 4 enfants de pères différents qu'elle a dû élever presque seule. sa fille aînée, la première de la lignée familiale depuis plusieurs générations à avoir eu le bac, donc avoir une forme scolarisée. Elle a conduit un compagnon alcoolique et violent qu'elle a quitté. Elle a été aussi quittée plusieurs fois. Et dans ses positionnements politiques, elle se situe clairement à gauche, mais parce que pour elle, la gauche, c'est le peuple, mais elle se montre très compréhensible à l'égard des discours du Front National, en trouvant qu'ils sont intéressants. Voilà un peu la personne qui est interrogée, qui est par ailleurs une fan de cette série télévisée, Ally McBeal. Donc elle s'est identifiée au personnage principal de la série, Ally McBeal, l'héroïne de la série, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, une avocate à Boston, aisée et trentenaire, qui est pourtant, disons, éloignée de son propre milieu social. Alors, je sais ce qu'elle me dit. Peut-être qu'il y a un cheminement qui a fait que je me suis senti peut-être proche d'elle, dans le sens, quand on recherche quelque chose dans la vie, on le cherche jusqu'à ce qu'on le trouve. Donc elle trouve une sorte de cheminement, elle emprunte quelque chose dans le personnage, un cheminement, elle précise le côté un peu utopique de l'amour, parce qu'elle cherche un peu l'amour aussi, l'homme de sa vie, où elle fait des essais. Donc, il y a l'idée d'un cheminement, il y a une correspondance qui se fait entre l'héroïne de la série télévisée et sa situation, la quête de l'amour, et pourtant, elle se sent démunie culturellement. Et le feuilleton, la série, va l'aider justement à verbaliser, à intellectualiser ses propres émotions. Elle dit, à propos de la série, « Ça traduit un peu mes sentiments, mais eux, ils ont les mots que moi, je n'ai pas en fait. » Ça traduit un peu mes sentiments, mais eux, ils ont les mots que moi, je n'ai pas en fait. La série constitue alors une ressource pour se construire une vie malgré les difficultés et les échecs. Hein. Et notamment les difficultés sociales et les échecs multiples sentimentaux. Elle dit, l'idéal, je pense que ça aide à avancer dans un sens afin d'avoir un but, c'est plutôt, enfin, je pense que ça sert à avoir un but de ne pas baisser les bras, et tant qu'on a cet idéal-là, on avance. Bon, il y a une dimension de ressource dans une dynamique, bon, malgré les difficultés sociales, sentimentales. Là aussi, dans ce cas, on a des emprunts, on pourrait dire. C'est-à-dire, leurs mots à eux qui servent de traducteur pour mes propres sentiments. Leurs mots à eux. C'est leurs mots à eux, mais pourtant ça sert de traduction pour mes propres sentiments. Qui alimente une démarche émancipatrice. Qui invite justement à ne pas aplatir l'expérience sur l'aliénation, sur le fait qu'on voit là quelqu'un qui est aliéné parce qu'elle regarde une série ou par sa situation sociale, etc. Qui n'est pas simplement une intériorisation de la domination. Mais les inégalités culturelles et une certaine dépossession sont aussi présentes, elles sont présentes même à la conscience, hein. Les mots que moi je n'ai pas. Donc c'est conscient, la domination même, dans la conscience. Donc on a d'une part des emprunts émancipateurs, et d'autre part des sentiments de l'inégalité, de la dépossession. Les deux cohabitent. Là aussi nous sommes confrontés à l'ambivalence par rapport à laquelle les mots de Rancière et les mots de Bourdieu apparaissent avoir d'une certaine façon une part respective de vérité. C'est-à-dire qu'il y a une part respective de vérité de Rancière et une part respective de vérité de Bourdieu, mais toujours en tension. Alors, ici, pour mieux comprendre les choses, il faudrait comparer les figures de l'émancipation privilégiées par Rancière et par Bourdieu. Ce n'est pas exactement les mêmes. Parce que les deux traitent de l'émancipation. Pour Rancière, les figures de l'émancipation constituent en quelque sorte un franchissement de la division sociale. Un franchissement de la division de classe, de la division dominant-dominé, et qui se fait effectuer par des emprunts aux univers dominants qui établissent la possibilité d'une égalité entre les deux univers. C'est ce qui rend possible, à partir de l'inégalité, l'égalité. Il l'écrit dans la Mésentente, lorsque la logique supposée naturelle de la domination est traversée par l'effet de cette égalité. Lorsque la logique supposée naturelle de la domination est traversée par l'effet de cette égalité. C'est là où il y a émancipation. Et l'émancipation a alors à voir, il le dit dans Le Spectateur émancipé, avec le brouillage de la frontière, le brouillage des frontières qu'on a vu tout à l'heure. La question de l'émancipation est moins importante chez Bourdieu, mais elle occupe un petit espace. La figure de l'émancipation que privilégie Bourdieu, il l'emprunte à Spinoza, bon, un des grands classiques de la philosophie, et un certain schéma de Spinoza, le schéma de ce qu'on appelle la libre nécessité. C'est-à-dire que chez Spinoza, la liberté n'est pas spontanée, mais la liberté advient par la connaissance des causes qui déterminent nos conduites. C'est-à-dire, c'est en connaissant mes déterminations que je deviens libre. Alors que quand je crois être libre, je suis simplement le jouet de ces déterminations et je suis une sorte de marionnette de ces déterminations. Donc Spinoza est un premier à avoir défini ainsi la liberté par la connaissance des déterminismes. Bon. plutôt que leur négation. L'émancipation chez Bourdieu a alors principalement à voir avec la connaissance de ses propres déterminismes, à un niveau individuel ou à un niveau collectif. Hein. La connaissance de ses propres déterminismes dans une société, à un niveau collectif, la connaissance de ses propres déterminismes pour chaque individu. Donc on n'a pas la même figure de l'émancipation chez Rancière et chez Bourdieu. Ces deux figures de l'émancipation ne sont pas nécessairement exclusives l'une de l'autre. On peut penser dans le cas de Pierre comme dans celui de Dominique, hein, les deux entretiens dont j'ai parlé, que les emprunts émancipateurs peuvent s'enrichir aussi de la figure de l'émancipation de Bourdieu, c'est-à-dire d'une connaissance déculpabilisante des limitations auxquelles elle se cogne. C'est-à-dire que il y a ces emprunts émancipateurs aux formes culturelles dominantes, mais une connaissance déculpabilisante des causes de la domination pourrait aussi jouer un rôle dans cette émancipation. Bourdieu parle en ce sens dans le post-scriptum de La misère du monde, ce livre qu'il a dirigé sur la France des années 90, 1993. Donc dans le post-scriptum de La misère du monde, Bourdieu écrit, parle de la possibilité d'imputer leur souffrance à des causes sociales et de se sentir ainsi disculpé. La possibilité d'imputer leur souffrance à des causes sociales et de se sentir ainsi disculpé. Si je connais les causes sociales qui me mettent dans cette situation de difficulté, au lieu de considérer que c'est naturel, c'est de ma faute, etc., alors je peux me sentir disculpé, plus responsable de ça. Et donc ça a un élément aussi qui peut s'ajouter aux emprunts émancipateurs dont parle Rancière. Donc la figure de l'emprunt émancipateur privilégié par Rancière et la figure de la connaissance des déterminismes, en tant qu'elle peut être déculpabilisante pour ceux qui connaissent, ne sont pas nécessairement opposées. Mais il faut évidemment que cette connaissance des déterminismes ne finisse pas par engloutir l'ensemble de l'expérience dans une dynamique de soupçons généralisés. Il y a toujours cette possibilité et donc il y a toujours l'importance de la tension. Alors, ces éléments empiriques nous ont permis, je pense, de progresser dans la compréhension de cette tension entre critique de la domination et philosophie de l'émancipation chez Rancière, qui est une question politique centrale, critique et émancipation, et leur rapport. Et donc on va finir par traiter ça à travers les chansons, donc j'ai intitulé cette dernière partie « Et si tout finissait en chanson ». Donc on va voir que ce registre chansonnier va nous permettre d'affiner des questions qui ont été travaillées dans la tension Bourdieu-Rancière. Pas forcément la théorie de Bourdieu, la théorie de Rancière, mais les thèmes portés par Bourdieu et par Rancière. Et donc on va pouvoir passer la première chanson, qui est la chanson de Michel Jonas, Les vacances au bord de la mer 75. Bien, alors je vais reprendre quelques éléments. On voit bien là dans cette première chanson, on a d'abord l'expérience de l'inégalité sociale. Donc on a l'expérience des contraintes, des incapacités. Elles sont thématisées dans la chanson à la manière de la sociologie critique. Hein. On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. On regardait les autres gens comme ils dépensaient leur argent. Nous, il fallait faire attention quand on avait payé le prix d'une location. Il ne nous restait pas grand-chose. Donc on a l'expérience de l'inégalité, de l'incapacité. On n'est pas rendu capable par le manque de moyens, par la contrainte. Bon. Donc on a là une figure qui est proche de la sociologie critique. Et ce spectacle, disons, désenchanté du poids de la domination peut être d'ailleurs un élément du rapport ordinaire à la domination. Ce n'est pas simplement quelque chose du sociologue, mais ça peut être celui qui subit la domination. Ce spectacle désenchanté du poids de la domination, c'est alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants, on ne faisait que passer dedans. Pourtant, ce poids des incapacités ne prend pas tout l'espace dans la chanson chantée par Jonas. Donc on n'est pas dans une logique domino-centrée. Tout d'abord parce que c'est mis en parole critique. Donc si c'est mis en parole, c'est thématisé. Donc il y a une maîtrise d'une certaine façon. Le fait que ça soit mis en parole, c'est déjà l'indication de parole critique qu'on n'est pas complètement démuni face à la question. Mais aussi parce que l'expérience est dotée d'ambivalence. Il y a des petits bonheurs qui restent nostalgiquement gravés et pour lesquels les déplorations misérabilistes de l'aliénation, de la domination n'auraient que de mépris. Or, ils sont gravés ici. Sur la plage, pendant des heures, on prenait de belles couleurs ou Et quand les vagues étaient tranquilles, on passait la journée aux îles. Ces éléments de bonheur gravis, ils existent. Ils ne sont pas simplement des choses qui peuvent être ridiculisées simplement par l'ombre portée de la domination. Et même la tension entre incapacité et capacité, impossibilité et possibilité, rancœur et bonheur, est même directement palpable à un moment donné dans le même énoncé. On avait le cœur un peu gros, mais c'était quand même beau. Non, les deux se succèdent. On avait le cœur un peu gros, mais c'était quand même beau. Donc on a les deux sont mis en tension ensemble. Et d'ailleurs, les regards sur les bateaux incluent déjà indissociablement un manque et un plaisir esthétique. Il y a un plaisir esthétique qui est de regarder les bateaux, et il y a pourtant quelque chose qui manque. Hein? Dans le regard vis-à-vis des bateaux, il y a ensemble le manque et le plaisir esthétique, dans une ambivalence, dans une tension. Et donc, la chanson de Jonas, à la différence de Rancière, ne cherche pas à purifier l'émancipation de l'ombre portée de la domination. C'est-à-dire, il n'essaye pas d'éliminer la critique de la domination, du rapport à... Et donc, c'est la différence avec Rancière. Mais à la différence de Bourdieu, il n'aplatit pas trop rapidement les ressources émancipatrices sous le bulldozer de la domination. Et c'est là où il a une façon intéressante de faire. C'est comme si c'était une invitation chansonnière à partir des capacités et des incapacités des opprimés, à renouer le fil entre émancipation et critique de la domination. Et sur le plan pratique, à assumer l'ambiguïté, l'impur, le composite qui existe justement dans cette tension. Donc, les tensions de l'expérience. Le deuxième texte, là, on a le disque, le CD, c'est une chanson d'Alain Souchon de 93, peut-être plus connue encore, Foule sentimentale.
Thank you.
Bien, donc, si on prend ce texte, dans un premier temps, Souchon se fait en quelque sorte théoricien des contraintes, théoricien critique des contraintes de la marchandisation du monde dans les sociétés capitalistes. D'ailleurs, sa théorie critique, elle pose des problèmes similaires à celle de Bourdieu, elle est plus proche dans son contenu de la critique des industries culturelles qu'on trouve dans ce qu'on appelle l'école de Francfort, ou encore de la critique de la société de spectacle chez Guy Debord, que de Bourdieu proprement dit. Mais ce qui compte ici, c'est le problème du rapport entre critique sociologique et émancipation. Donc, critique des contraintes de la domination, de la marchandisation. Oh là là, la vie en rose, le rose qu'on nous propose, avoir des quantités de choses qui donnent envie d'autre chose, ayons-nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires, dérision de nous dérisoire encore. On nous inflige des désirs qui nous affligent, on nous prend, faut pas déconner dès qu'on est né pour des cons alors qu'on est des... Donc, on a une théorie critique de la domination, des contraintes, de la standardisation, de la marchandisation. Donc, c'est le pôle théorie critique, on peut dire, critique sociologique. Donc, à la différence de Rancière, la critique chansonnière n'hésite pas à thématiser les pièges et les écueils, les contraintes de la domination. Toutefois, il y a des attentes qui sont en décalage avec cette domination, là, avec la commercialisation des désirs. Foule sentimentale, on a soif d'idéal, attirée par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Bon. Donc, en fait, il y a un écart entre les attentes des gens qui sont sous contrainte de la domination et ce qui est proposé par la marchandisation du monde. Et donc la critique de la domination n'est pas calée sur l'oubli de l'activité, de la dignité, des raisons propres des opprimés. C'est-à-dire que leur dignité, leur activité, leurs raisons sont aussi pris en compte. Dans une approche proprement littéraire, le « nous » d'ailleurs permet d'identifier la critique comme une sorte d'auto-ironie. Et donc, s'il y a auto-ironie, c'est-à-dire que tous les individus, la plupart des individus ordinaires sont dotés de capacités critiques. Ils ne sont pas simplement dans l'aliénation, mais eux aussi, ils ont un rapport critique au monde. Bon. Donc ce nous, cette auto-ironie, dote l'ensemble des individus ordinaires de ces capacités critiques. Et donc pas simplement un appléthissement dans la domination. Et la critique, elle se fait donc compréhension, parce qu'elle va relever un décalage entre les individus ordinaires et la domination. Les ruses de la domination ne sont pas toutes puissantes dans cette vision. Il y a le maintien d'un ailleurs possible par rapport à la domination. Attiré par les étoiles, les voiles, que des choses par commerciales. Il y a un ailleurs qui est déjà, disons, dans l'esprit des dominés. Et cet ailleurs par rapport à la domination, il dote la logique émancipatrice d'un repère pour aller au-delà de la domination, pour aller au-delà de l'inégalité. Donc on a là sous une forme chansonnière quelque chose de ce qu'en sciences sociales on pourrait appeler une critique compréhensive, une posture qui est à la fois critique et compréhensive. Critique parce qu'elle pointe les contraintes de la domination, les inégalités, compréhensive parce qu'elle prend au sérieux les capacités et les raisons propres des gens qui sont soumis à la domination. Critique et compréhensive, critique compréhensive. Bon. Et donc cette critique compréhensive, elle est ajustée à l'ambivalence de l'expérience, dans une tension justement entre critique et compréhension, entre une théorie critique à la Bourdieu et une philosophie émancipatrice à la Rancière, entre incapacité et capacité. On retrouve ce problème de la tension, de la mise en rapport dans une tension des deux dimensions. Voilà, alors ma conclusion, parce que j'ai été long, sera courte. Donc j'ai essayé aujourd'hui encore, comme la semaine dernière avec l'individualité, de reformuler ces logiciels de la critique sociale et de l'émancipation. Là, c'est à partir des interférences et des tensions entre deux auteurs, Bourdieu en tant que sociologue, Rancière en tant que philosophe. Il me semble que à travers ça, la question politique se trouve éclairée autrement. Il y a un autre aspect dans le mode de connaissance qui a souligné dans la façon dont j'ai procédé. C'est que le va-et-vient entre Bourdieu et Rancière a permis de recourir à une certaine démarche antidogmatique qui a été formalisée par un sociologue dont j'ai déjà parlé, qui est Jean-Claude Passeron. Dans un de ses textes, Passeron explique qu'il faut travailler les théories, les concepts, dans leur adéquation comme dans leur inadéquation au processus étudié. Donc, un concept ne nous dit pas des choses simplement en ce qu'il... Il éclaire des aspects des choses, en ce qu'il est adéquat à des aspects des choses, Mais un concept est toujours inadéquat aussi, il y a toujours des choses qui lui manquent, et son inadéquation nous apprend des choses aussi sur le processus. Donc ses limites nous apprennent des choses. Bon. Et donc la richesse des apports théoriques de Bourdieu et Rancière apparaît aussi dans leur inadéquation à ce qu'ils analysent. C'est-à-dire que leur inadéquation, leurs limites, leurs écueils nous font aussi progresser dans nos réflexions et nos analyses. Donc ça c'est un usage antidogmatique des théoriciens et des concepts. Les faire fonctionner dans leur adéquation, mais aussi dans leur inadéquation au processus qu'on analyse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On peut passer à un peu de discussion quand même.